Wilkie Collins, La femme en blanc. Traduction par Paul-Émile Doran-Forgue. Préface écrite par l'auteur de La Woman in White, La femme en blanc, pour les lecteurs de la traduction française. Il y a quelques années, je me trouvais faire partie de l'auditoire assemblé pour assister au débat d'une affaire criminelle qui se jugeait à Londres. Pendant que j'écoutais la procédure, laquelle n'avait aucune importance en elle-même, et ne m'a fourni aucun des personnages ou des incidents qu'on trouvera dans les pages ci-après, je fus frappé de la manière dramatique dont se déroulait l'histoire du crime alors soumis aux investigations de la magistrature, grâce aux dépositions successives des témoins entendus tour à tour. À mesure que chacun d'eux se levait pour fournir son fragment de relations personnelles, à mesure que d'un bout à l'autre de l'instruction, chaque anneau séparé venait former avec les autres une chaîne continue d'irréfragable évidence, je sentais que mon attention était de plus en plus captivée. Je voyais qu'il en était de même chez les personnes qui m'entouraient. Et ce phénomène prenait une intensité toujours croissante, à mesure que la chaîne s'allongeait, à mesure qu'elle se tendait, à mesure qu'elle se rapprochait de ce qui, dans tout récit, est le point culminant. Certainement, pensais-je, une série d'événements romanesques se prêterait fort bien à une exposition comme celle-ci. Certainement, par les mêmes moyens que je vois employer ici, on ferait passer dans l'esprit du lecteur cette conviction, cette foi que je vois se produire grâce à la succession de témoignages individuels, si variés de forme et pourtant si strictement unifiés par leur marche constante vers le même but. Plus j'y pensais, et plus un essai de ce genre m'apparaissait comme devant réussir. Aussi, quand le procès fut terminé, je rentrai chez moi bien déterminé à tenter l'aventure. Mais quand il fallut donner une forme définie à la pensée qui m'avait préoccupé, je m'aperçus que la chose n'était point aussi facile que je l'avais cru. Elle offrait de sérieuses difficultés littéraires avec lesquelles, alors, mon expérience de romancier ne m'avait pas encore mis à même de lutter victorieusement. Je résolus d'attendre que j'eusse acquis, à un degré supérieur, la pratique de mon art, d'attendre que le temps et le hasard vinssent m'offrir une chance nouvelle. Voici comment cette chance m'arriva. Dans le cours de l'année 1859, M. Charles Dickens lança le journal hebdomadaire qu'il a baptisé « All the Year Round » et qu'il inaugura par un roman de lui, « A Tale of Two Cities ». Lorsque la publication de cette œuvre par livraison hebdomadaire eut été complétée, je fus invité à écrire le roman qui devait immédiatement lui succéder dans les colonnes du nouveau périodique. Lorsque j'eus accepté la responsabilité de m'adresser à un des plus nombreux auditoires que l'Angleterre puisse offrir, après que le plus grand romancier de notre pays venait de le tenir sous le charme de son talent, je ressentis une anxiété assez naturelle en me demandant si je me montrerais digne d'une telle marque de confiance. Et à ce moment critique, l'idée que j'avais ajournée quelques années auparavant m'étant revenue en tête, je résolus cette fois de m'en débarrasser en la réalisant. Toutes les facilités désirables m'étaient offertes. On me laissait mettre de la longueur à donner à mon œuvre. On ne limitait en rien le choix du sujet à traiter. La plus entière indépendance, quant à la forme que je voudrais lui donner, m'était garantie contre toute intervention quelconque. Ce fut sous ces favorables auspices que, pour la seconde fois, je me mis à ce travail déjà tenté vainement. En d'autres termes, je me donnais pour tâche de faire raconter mon roman par les personnages du roman eux-mêmes, comme les témoins que j'avais entendus au tribunal, c'est-à-dire successivement par chacun d'eux, et en les plaçant dans les situations diverses que la suite des événements leur aurait faites, de manière à ce que tous prissent tour à tour la suite du récit et progressivement le conduisissent à son terme. Si le résultat de ce travail, ainsi modifié par les circonstances, ne m'avait fait aboutir à rien de plus qu'à une certaine nouveauté de pur agencement, je n'aurais pas imaginé d'en parler ici. Pour un si mince résultat, la moindre attention eût été de trop. Mais, à mesure que j'avançais dans mon travail, je découvris que la substance même du roman, aussi bien que sa forme littéraire, tirait profit des nécessités nouvelles auxquelles je m'étais astreint de gaieté de cœur. L'exécution de mon plan me forçait à faire progresser sans relâche simultanément et constamment le récit pris en bloc. Elle m'obligeait à établir dans mon esprit une conception parfaitement nette des personnages avant de me hasarder à les placer dans la situation que d'avance je leur avais assignée. Et quand ils entraient en scène, elle leur fournissait une nouvelle occasion de se manifester par l'intermédiaire de ce témoignage écrit qu'ils étaient censés fournir à une sorte d'enquête et qui, en même temps, constituait la progression naturelle du récit. Tels étaient les avantages réels de l'expérience que je tentais dans ce roman. Elle me plaçait sous le joug le plus rigoureux de la discipline littéraire. Mon livre et moi ne pouvions qu'y gagner. Maintenant que j'ai brièvement indiqué les circonstances auxquelles La femme en blanc doit avoir vu le jour, il serait, je pense, inutile d'arrêter le lecteur par des remarques préliminaires sur le but dramatique vers lequel je tendais en réécrivant, ou sur les problèmes du caractère humain que, soit dans la conception primitive du livre, soit dans ses développements, je me suis proposé de résoudre. À ce double point de vue, le livre lui-même, nonobstant ses défauts et ses lacunes, est assez intelligible pour n'avoir pas besoin de commentaires. Le peu de mots qui me restent à dire n'aura donc trait qu'à la manière dont ce roman a été reçu déjà, soit en Angleterre, soit en Amérique. Avant que la publication périodique de la Woman in White à Londres et à New York simultanément se fût encore étendue à un grand nombre de semaines, la nouveauté du plan sur lequel je travaillais s'était fait reconnaître et avait fixé l'attention. Après l'apparition de chaque numéro du journal, il m'arrivait de tous côtés des témoignages écrits de la curiosité, de l'intérêt que mes lecteurs voulaient bien m'accorder, soit en Angleterre, soit au Canada, et jusque dans ces « backwood settlements », ces germes de villages futurs, déposés sur l'extrême limite de la civilisation américaine. À plus forte raison dans les grandes cités de ce qui était, hier encore, la République des États-Unis. Les personnages, quels que soient les défauts que la critique leur puisse d'ailleurs reprocher, avaient la bonne fortune de produire, sur le grand nombre de lecteurs, la même impression que de vivante réalité. Les deux rôles de femmes, par exemple, Laura et Miss Halcombe, s'étaient fait de si chauds amis que lorsqu'une crise du roman parut les menacer l'une et l'autre de quelque sinistre aventure, je reçus plusieurs lettres écrites sur le ton le plus sérieux pour me supplier de leur sauver la vie. Miss Halcombe, en particulier, fut tellement prise en faveur qu'on me mit en demeure, ceci plus d'une fois, de déclarer si ce caractère était peint d'après nature. Le cas échéant, on voulait savoir si le modèle vivant d'après lequel je vais travailler consentirait à écouter les sollicitations de différents célibataires qui, parfaitement convaincus d'avoir en elle une femme excellente, se proposaient de lui demander sa main. Pour une autre catégorie de lecteurs, le secret, qui dans ce récit se rattache à l'existence de Sir Percival Glyde, devint à la fin l'objet d'une curiosité exaspérée, qui donna lieu à divers paris dont on me constituait l'arbitre. Mais pas un des parieurs, et en dehors d'eux, pas un de mes lecteurs, n'arriva, que je sache, à deviner ce que pouvait être ce secret. Avant que le moment fût arrivé où j'avais arrêté d'avance que la découverte pourrait en être pressentie. En ce qui concerne le comte Fosco, d'innocents gentlemen, par douzaines, qui avaient le malheur d'être gras à l'excès, furent dénoncés, tout à coup, comme m'ayant fourni les éléments de ce portrait. Et dans les rares occasions où ma voix essaya de dominer le tumulte des hypothèses dont je parle, j'eus beau déclarer qu'aucun romancier, se limitant à un seul modèle, ne saurait espérer de faire vivre un personnage de sa création, j'eus beau affirmer que des centaines d'individus, dont pas un ne s'en doute, avait tour à tour posé pour le comte Fosco, comme au reste pour les autres personnages du livre, personne ne m'en voulut croire. Les scélérats maigres, on me donnait ce renseignement, sont sans doute assez communs, mais un scélérat gras était dans le roman pris en général une si frappante exception aux règles de la poétique établie que je n'avais absolument pas pu rencontrer dans la vie réelle plus d'un type de cette espèce. Libre à moi, sans doute, de nier les faits. Mais le comte avait été reconnu, bien vivant et bien portant, par des témoins dignes de foi, soit à Londres, soit à Paris, et il était inutile de pousser le débat plus loin. En supposant réellement qu'il existe, Je le prie d'accepter toutes mes excuses, avec la formelle assurance que si je l'ai fait ressemblant, c'est bien par hasard. Vint un moment où le bruit courut que je m'étais perdu moi-même dans le labyrinthe de mon roman, que je ne savais comment l'achever, et que j'avais offert une récompense honnête à quiconque, pour ceci, voudrait me prêter assistance. L'achèvement du récit, dans le journal, fut le coup de grâce de ces agréables rumeurs. Sa seconde publication, sous forme de livre, lui procura, tant en Angleterre qu'en Amérique, un nouveau public, peut-être plus nombreux encore que le premier. Édition sur édition se suivirent rapidement. Une traduction allemande, imprimée à Leipzig, fut parfaitement accueillie des lecteurs d'Outre-Rhin. Et maintenant, grâce à la précieuse assistance de mon ami M. Forg, la Woman in White va reparaître sous une forme nouvelle. Elle va se faire écouter à Paris avec l'excellente recommandation de Son Altesse le Duc d'Aumale, venu si à propos et donné avec tant de libéralité. Telle est, simplement esquissée, l'histoire de ce roman. Je l'ai conté sans aucune réserve, par pure reconnaissance pour le généreux accueil déjà fait à mon livre, et aussi parce que, tout naturellement, je désire prouver aux lecteurs français que je ne me présente pas, témérairement à eux, auteur étranger d'un livre étranger, sans épreuve préalable pour le livre et pour l'auteur. J'ai écrit en toute franchise ce bout de préface. Et maintenant qu'elle est à peu près terminée, je ne veux pas dissimuler que je vais suivre d'un œil inquiet l'impression que la Woman in White pourra produire sur les compatriotes de Balzac, de Victor Hugo, de George Sand, de Soulier, d'Eugène Sue et de Dumas. Si on estimait que ce récit peut le moins du monde acquitter la dette que j'ai contractée, soit comme lecteur, soit comme écrivain, envers les romanciers français, il aurait rempli à mes yeux la plus récente, mais non la moindre des espérances que j'avais naguère fondées sur lui. Harley Street, London, juin 1861, Wilkie Collins.